Allez, installons-nous en terrasse. Allez, on imagine. Il fait doux sur la France, les passants sont heureux. Au fond du café, une radio chante. Mais oui, c'est Europe 1, c'est la table des bons vivants. Et Charles Aznavour, la salle et la terrasse, écoutez.
Depuis 10 ans, comme le temps passe, je fais la salle et la terrasse. Chez Marie-Louise, que tu connais, la petite rouquine au teint de lait, que je rêvais de prendre au piège quand j'étais le coq du collège. Dieu qu'il en ait passé du temps sur moi qui joue toujours perdant. En attendant que je m'y fasse, je fais la salle et la terrasse, et je suis aimé des clients. Moi, faire la salle et la terrasse, j'aurais salement fait la grimace. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, quand Marie-Louise me plaisait tant. Elle allait encore à l'école et je lui collais des auréoles quand je la voyais passer de loin. Mais le petit ange a fait ses foins. Maintenant qu'elle règne sur la place, moi je fais la salle et la terrasse, et je n'irai jamais plus loin. Que voulez-vous donc que j'y fasse? On devient bête et le temps passe. Marie-Louise a 45 ans et son cocu bien gentiment vient de la faire propriétaire en allant dormir dans la terre. On ne peut guère dormir plus loin. Moi j'ai pris tellement d'embonpoint et j'ai fait tellement de grimaces. Entre la salle et la terrasse, je suis un con, ni plus ni moins. Je fais la salle et la terrasse chez Marie-Louise, que tu connais, la petite rouquine au teint de lait, que je rêvais de prendre au piège quand j'étais le coq du collège. Dieu qu'il en ait passé du temps sur moi qui joue toujours perdant. En attendant que je m'y fasse, je fais la salle et la terrasse, je suis aimé des clients. Un petit blanc? Oui monsieur, ça vient. Oui, oui, je vous le donne, votre petit coup de torchon sur la table. Un jeu de 32 cartes, voilà, tout de suite. 3 demi, 3 et 100 faux cols. Un jambon beurre en terrasse. 2 crèmes à la une. Et 2.
Ah, c'est beau ça, la voix
très, très beau.
Et les paroles de Charles Aznavour sur Europe 1, on y était, cette ambiance si particulière de nos cafés, de nos bistrots et de nos restaurants français. L'acte 1 du retour à la vie donc a eu lieu ce mercredi avec la réouverture des terrasses. En attendant l'acte 2, hein, je le disais, avec la réouverture totale des salles le 9 juin. On fait un premier bilan, tiens, avec Emmanuel Rubin, le critique gastronomique du Figaro, depuis 30 ans cette année, dites donc. Bonjour Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi d'être là.
Mais partagé, et joyeux anniversaire donc.
Oui, oui, oui.
Ah, joyeux anniversaire.
J'ai découvert ça durant le confinement, on m'a dit que j'avais 30 ans.
Alors,
de Figaro.
Votre première terrasse, vous l'avez faite, j'imagine, ce mercredi?
Eh bien, je vais être très honnête. Oui, j'en ai fait une, mais c'est vraiment la terrasse de mon café d'en bas, quoi.
Ouais.
Je suis un pur parisien, hein. Donc à chaque fois que je déménage, j'adopte un café. Et donc là, comme je suis dans le deuxième, allée de la pub, le café du centre, à l'angle de la rue Mandar et de la rue Montorgueil.
Ce qu'on vient de comprendre avec cette crise, Emmanuel Rubin, on en a parlé ici plusieurs fois, c'est que les restaurants, les cafés, c'est aussi de la culture. Ça fait partie de notre identité, mais complètement.
Ah, complètement. Et je pense que c'est au moins le mérite de cette crise, c'est d'avoir rappelé ce qu'on croit être une évidence. Mais en vérité, pour beaucoup de personnes, où on avait peut-être oublié, que le restaurant, je ne dis pas que c'est un des beaux-arts, hein. Moi je suis un peu comme Gainsbourg, hein. Je crois qu'il y a des arts majeurs, des arts mineurs. En revanche, je sais que le restaurant, c'est éminemment une culture. Et le jour, lors du premier confinement, où on a vu une ville comme Paris, mais pas simplement, rideau baissé, là, on a vu que ce n'était pas simplement une histoire d'assiette. Que bien sûr, la cuisine, elle est capitale dans un restaurant, mais que quelque part, c'est beaucoup plus que ça. Alors, quand je le dis là, et après un an de Covid, tout le monde dit « Ah oui, c'est évident ». Je peux vous dire que ce n'était pas quelque chose de si évident. Avant cela, et moi je le vois même dans mon propre milieu de critique gastronomique, souvent dans les critiques, et la plupart de mes confrères ont beaucoup de talent, mais souvent quand je lis une critique, je lis une assiette, c'est-à-dire j'ai l'impression que les critiques ont la nuque baissée sur l'assiette. Ils parlent très peu du décor, de l'ambiance, du public, du quartier,
salle,
et parfois
oui.
Je lis même des critiques, je dis mais à la fin tu fermes les yeux, tu dis au fait on était où les gars. Si t'as envie de faire de la critique culinaire et faire de la fiche recette, c'est très bien. Si tu fais la critique d'un restaurant, Raconte-moi un restaurant.
Alors justement, attention, tous les restaurants ne sont pas encore rouverts. Hein, les salles, c'est le 9 juin. Ils sont dans quel état d'esprit, nos restaurateurs, nos cuisiniers, vous qui les côtoyez au quotidien ?
C'est ambivalent. C'est-à-dire qu'ils sont ravis, pour la plupart, de rouvrir, de recoller à l'énergie, au métier, à ce qu'ils aiment. C'est quand même un métier, vous savez, de passion et de vocation. Tu tiens pas très longtemps si c'est pas chevillé au corps. Dans le même temps, ils ont été un peu groggy physiquement. C'est-à-dire que je dis souvent qu'aussi bien en cuisine qu'en salle, c'est un métier de sportif. C'est très physique, la cuisine. Quand tu t'entraînes pas, entre guillemets, pendant 7-8 mois, quand tu reprends comme ça du jour au lendemain, il y a de la casse.
Mais il a des courbatures, Yves Condebord.
Ah, mais il parle pas.
Non, mais je comprends complètement ça. C'est comme faire du vélo. Vous savez, quand vous faites beaucoup de vélo, que vous arrêtez le vélo pendant 6 mois, avant de remonter le Tourmalet, je peux vous dire qu'il faut d'abord pédaler. Hein. C'est très difficile de la reprise.
Et c'est ça que ça raconte d'ailleurs cette crise. C'est qu'on voit un peu la réalité de ce métier. Vous savez, c'est très bien Top Chef, mais c'est un peu une émission fantasmée. Là, on voit que c'est un métier que c'est dur, c'est physique. Et puis, il y en a beaucoup qui, mentalement, sont passés à autre chose parce que pour leur première fois de leur vie, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ils ont vécu une vie qui est une vie entre guillemets normale, de famille, avec des soirées, des week-ends, des vacances. Moi, je suis fils de restaurateur, c'est quelque chose qui n'existe pas dans ce métier, même si ça a un peu changé. Là, pour la première fois, ils ont vécu ça et il y en a qui ont décidé de faire autre chose.
Et vous l'avez dit, il y a de la casse aussi.
Je vois dans mon quartier, nous sommes en plein cœur de Montorgueil, je me suis amusé à faire tous les restaurants sur les 200 mètres de rayon autour de ce quartier-là, de l'épicentre Montorgueil. Sur une 80 restaurants, il y en a plein dans ce quartier-là. Je compte les cafés, les brasseries. Ouais. J'en ai compté au moins une vingtaine qui ont déjà fermé. Donc voilà. Ça ferait 20%. Donc je pense qu'il y en a plein qui ont fermé. Surtout, ce qui m'inquiète, c'est la suite. Il y a eu des aides de l'État, certes, mais il y a surtout un prêt qui a été consenti. Et pour la plupart, moi, les chefs et les restaurateurs me disent, ce prêt, maintenant, va falloir le rembourser. Et pour beaucoup, ils se disent que pour le rembourser, il faudra qu'ils fassent le double de chiffre d'affaires qu'ils faisaient avant le Covid. Alors, c'est peut-être caricatural, mais il va bien falloir payer et rembourser ce prêt. Et ça va vraiment abîmer les choses.
Je l'entends, certes, mais alors, moi, je vais défendre un peu quand même mon métier, surtout le métier qui est fait par des restaurateurs, que ce soit des cuisiniers ou des chefs de salle. C'est un métier où n'importe qui fait n'importe quoi sans aucune autorisation.
Ah, ça, c'est vrai que n'importe qui peut ouvrir un restaurant.
20%, dans les 20% qui ont fermé, est-ce qu'ils n'étaient pas déjà en difficulté avant le Covid?
Sûrement.
Et est-ce que quelque part, ça ne va pas, alors je vais être très dur, ça ne va pas un peu nettoyer aussi notre métier, et quelque part par rapport pour les clients, ce sera que du mieux de retrouver des établissements.
Ça va professionnaliser le métier peut-être, c'est ça que vous dites.
On est d'accord. Je pense que c'est un équilibre des deux. Il y aura ça, voilà. Ça c'est tant mieux. Moi je le dis, tant mieux.
Parce qu'on a été quand même, faut le dire haut et fort, on a été quand même accompagné. Alors même si ça n'a pas couvert tout, on a quand même été pris par la mer,
on a permis de
continuer à exister. C'est vrai que ce PGE, ça peut être une petite bombe à retardement parce qu'il va falloir à un moment donné le rembourser, mais je pense qu'on va pouvoir arriver à l'étaler pour que un maximum de mes collègues restaurateurs puissent s'en sortir et retrouver. Voilà,
c'est le cocktail Condebord Rubin. Le verre à moitié plein, c'est Condebord, à moitié vide, c'est Rubin, mais la vérité est entre les deux.
Gardez-en sous le pied, Emmanuel Rubin, parce qu'on continue d'en débattre. On va parler du prix des additions, justement. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Et puis, on va vous donner, chers auditeurs, de bonnes adresses de terrasses partout en France. Bon samedi matin, midi, bonne cuisine, si vous êtes en train de la faire, sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Oui, depuis mercredi, hein, c'est le retour à la vie avec le retour des terrasses. Tiens, Olivier Pouls, on va rappeler quand même les règles. On va profiter de la présence d'Emmanuel Rubin, critique gastronomique du Figaro, et notre camarade Yves Condebord, chef bistronome, et tous nos auditeurs pour rappeler justement les règles terrasse.
On va le faire pour la forme, hein, parce qu'en réalité, on a déjà pu constater qu'un certain nombre de libertés avaient été largement prises. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Normalement, c'est évidemment uniquement les terrasses ouvertes, le masque pour se déplacer, les clients assis uniquement, 6 personnes par table au maximum, le respect du couvre-feu et des demi-jauges. Alors ça, j'ai rien compris pour les terrasses.
Je peux vous assurer qu'il n'y a pas que vous qui avez rien compris.
Mais bon, on n'y est pas.
Ah ben c'est clair comme ça.
On n'y est pas du tout. Je voudrais qu'on parle de l'addition. Vous avez dit juste avant la pause, Emmanuel Rubin, attention, on ne sait pas si les Français auront les moyens de retourner au restaurant, s'ils auront envie. Et je sais qu'un de vos chevals de bataille, c'est ça souvent. C'est le prix et c'est notamment ce menu dégustation qui a imposé un prix assez costaud dans certains restaurants.
Ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué, je sais bien, et notamment dans les grandes villes, pas simplement Paris, je sais bien que c'est difficile d'arriver à une addition juste pour les restaurants. Ça reste des commerces comme les autres, avec des frais fixes et du salariat qui est difficile à juger. Il n'empêche que si on parle, et moi je le vois, vous savez, quand on fait 30 ans de critique gastronomique, on reçoit énormément, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, de courriers. Bien avant la crise du Covid, il y avait déjà un malaise sur l'addition. C'est-à-dire que ce qu'ils reprochaient de prendre un juste ou un mauvais titre, c'est que c'était trop cher les restaurants. Et déjà, une partie de la société avait déserté le restaurant. Ce qu'on appelle les classes moyennes, elles y allaient de moins en moins. Donc ce qui m'inquiète, et c'est ça qui sera l'après, le monde d'après de la restauration, c'est du côté de septembre, passé l'engouement, les vacances, tout ça. Est-ce que les gens auront véritablement les moyens? Est-ce qu'il n'y aura pas des plis aussi un peu plus sociologiques de prix sur ils ont appris à aller un peu moins au restaurant, à peut-être aussi voir que lorsque on buvait un verre entre amis chez soi, bah finalement, à un moment donné, certes, ce n'est pas l'énergie du restaurant ou du bar, mais c'est une bouteille de vin, oui. C'est quand même 10 fois moins cher. Et ça, j'ai un peu peur.
Le chef bistronome Yves Candebord, inquiet ou pas de cette refréquentation des restaurants?
Inquiet, je vais vous dire non, mais je pense que c'est indéniable qu'il y a eu un avant et il y a eu un après, que les restaurateurs, voilà, il va falloir se remettre en question et peut-être pas considérer qu'on est des artistes, qu'on est simplement des artisans et faire payer le coup de génie du pinceau dans l'assiette.
Oui. Faisons payer. On ne mange pas les rideaux, comme vous dites.
Faisons juste payer la matière première, ça sera peut-être suffisant.
Alors, on a une sélection de terrasses pour vous, chers auditeurs. On va faire, vous, tiens, qui êtes le cofondateur du fooding, Emmanuel Rubin. Dans le fooding, il y a une catégorie qui s'appelle les tables d'auteurs. C'est cuisine d'auteurs avec des chefs engagés qui ont un univers derrière la fourche et la fourchette. Une belle terrasse à nous conseiller, tiens. On vous écoute.
Le Cadoret, on est dans le 18e. On est dans cette veine. Alors, vraiment, c'était alors déjà dans un quartier, vous savez, tous ces arrondissements qui reprennent un peu de vie à Paris. Le décor de peu, un ancien rade gentiment refait, et puis un de ses chefs qui s'amuse avec de la matière première assez simple, des produits pas trop compliqués, mais qui a ce twist, ce génie. Alors justement, il n'est pas dans la cuisine de paysage et de pinceau, mais il va... Ça, c'est vraiment la vertu de la bistronomie originelle. C'est-à-dire, on est dans les codes du bistrot, c'est simple. Il y a de la sonorité, on est au coude à coude, il y a de la bonne ambiance, et le plat, il est simple, avec juste ce qu'il faut de twist.
Olivier.
Alors moi, il y a un chef que j'adore, qui s'appelle Bruno Cirino, que je trouve qui est un génie, et qui a ouvert une table que je n'ai pas encore découverte, mais que j'adorerais aller voir, qui est à Nice, qui s'appelle Racine, où Bruno Cirino se concentre sur les légumes. Ce n'est pas un restaurant végétarien ni vegan, mais une cuisine de légumes, et j'adore ce chef.
Yves, une terrasse.
Allez, Mont-Louis-sur-Loire, un village, une région, un lieu, Le Berlot, petite terrasse. Hervé Chardonneau, grand cuisinier, une cuisine d'authenticité, de valeur et de plaisir.
Catégorie, tiens, adresse secrète aussi, hein, votre adresse de cœur.
Alors celui-là, il est tellement secret qu'il n'est pas encore ouvert, il ouvre ce week-end. On est du côté de la rue de l'Arbre Sec, ça c'est à Paris, en plein cœur des Halles. C'est un chef dont on parle beaucoup actuellement, puisqu'il est dans Top Chef, il s'appelle Mathias Marc, et il s'amuse, on va voir ce que ça donne, à réinventer la taverne, l'esprit de la taverne.
Ah, bien.
Vous savez,
il ne
faut pas oublier que les restaurants sont des genres. Alors il y a le bistrot, il y a le bouchon, il y a le grand restaurant, il y a le café de la gare. Et la taverne, on l'avait un peu oublié, ça c'est code, il va essayer de faire ça avec une cuisine encore un peu amélioré, en plein cœur des Halles. J'aimerais bien y aller.
Adresse secrète d'Olivier Pouls.
Je vous emmène dans le vignoble et je vous emmène du côté de Bandol, dans le domaine de Terre Brune, qui est un magnifique domaine. Les vins sont délicieux, mais il y a aussi une petite table d'hôtes et une terrasse. Et vous êtes au cœur du vignoble,
d'un
vignoble somptueux. Là, vous êtes très
avec
bien.
Une ouverture vers la mer, en plus au loin. C'est magnifique. Yves Candebord.
Un village dans le Vaucluse, Mérendol. Et il y a la Bastide du Grand Tilleul, qui est tenue par Aurélien et Emmanuel. Deux personnes qui aiment les gens, et pour moi c'est la chose la plus importante quand on est restaurateur, c'est aimer les gens. On est dans une terrasse ombragée sous un énorme tilleul. C'est simple, c'est bien fait, et en plus ils ont une très belle sélection de vins de la région.
Et ben voilà, et moi je termine par la terrasse d'Anecdote, le restaurant d'Alexandre Gauthier à Montreuil-sur-Mer, ceviche de maquereau, une belle côte de bœuf, un merlan en croûte de pain, voilà, il y a de belles choses. Donc retournons au restaurant en fonction de nos envies, de nos budgets et de nos moyens, bien entendu. Merci Emmanuel Rubin.
C'est moi vraiment.
Pour cet éclairage, le Figaroscope reparaît la première semaine de juin, et le dossier, et bien c'est le suivant, les 50 adresses qui vous ont le plus manqué, c'est ça?
Exactement.
Et ben voilà, le Figaro avec Emmanuel Rubin. Ne bougez pas, tout de suite, un épicurieux qu'on aime tous, c'est Jamy Gourmaud. Il est notre invité. Alors, Gourmaud est-il gourmand? Réponse juste après ça.